La salutation faite par l'ange à Marie est bien connue de tous les chrétiens. L'ange lui dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi ». Il lui dit ensuite « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte ». J'ai toujours eu un petit peu de mal à essayer de trouver du sens à ce dialogue qui est certainement mythologique, mais il peut être trop connu aussi. Bref, c'est un texte compliqué. Et j'ai découvert une chose curieuse qui peut être une manière d'aborder le texte et de lui trouver du sens, c'est que les spécialistes de la Bible nous disent que l'on trouve là, pour la première fois dans tout le Nouveau Testament, le mot « grâce ». On sait à quel point la grâce est considérée comme une chose essentielle dans notre théologie. Nous disons que Noël, c'est la grâce qui nous est donnée, et nous disons que nous sommes sauvés par la grâce. Mais qu'est-ce que la grâce? Qu'est-ce que la grâce qui nous sauve? Parfois, nous ne le savons finalement même plus très bien. Or là, c'est la première fois dans tout le Nouveau Testament que le mot « grâce » apparaît. Et il y a, dans la tradition rabbinique, une idée qui est que la première occurrence d'un mot dans la Bible donne son sens essentiel. Et donc, si on applique cela, c'est une façon comme une autre de voir les choses, eh bien, on peut se dire peut-être que nous devrions chercher là, justement, ce qu'est la grâce. Et alors, si on étudie ce passage en détail, eh bien, on découvre plein de choses sur ce qu'est la grâce. Nous avons là une véritable leçon de théologie de la grâce. Et voici ce que l'on en déduit. La première chose, c'est que il n'est pas question là d'enfer ou de paradis. L'ange ne dit pas à Marie « Une grâce t'a été faite, et puisque tu as la grâce, tu seras sauvée ». Et donc la grâce ici ne concerne absolument pas le fait d'être sauvé ou perdu. Ce n'est pas la question d'échapper à l'enfer ou au jugement. La grâce ici n'a rien à voir avec ces questions de prédestination ou autre chose qui ont pu être dites. La grâce, ce n'est pas non plus pour plus tard, ce n'est pas quelque chose pour notre après-mort. Ici, la grâce qui est promise à Marie, c'est pour tout de suite, immédiatement. Ça, c'est la première leçon, et c'est très important. Parce que quand on nous dit que Jésus nous est donné, qu'il nous donne la grâce, si c'est uniquement pour nous dire « Soyez heureux, parce que grâce à lui, vous irez au paradis », bon, c'est déjà pas mal, vous me direz, mais je crois que ça n'est pas suffisant. Parce que là, la grâce, ce n'est pas pour demain, c'est pour tout de suite. Et je crois que cette grâce de Noël peut avoir une efficacité pour nous, tout de suite, immédiatement. Et cela, Marie le comprend bien. Elle le comprend même très très bien, parce que la grâce promise par l'ange, c'est de lui dire « tu seras enceinte ». Bon, ce n'est pas une très grande nouvelle de dire à une jeune femme qui est fiancée, qui va bientôt se marier, qu'elle va être enceinte. Certainement, c'est ce que tout le monde lui souhaite. Et donc, Marie aurait pu dire, ben oui, je vais être enceinte. J'espère bien, du moins, puisque je vais bientôt me marier. Mais Marie comprend que ce n'est même pas une grâce pour dans un mois, deux mois ou un an. La grâce est pour tout de suite. Et elle dit, mais comment ce sera possible, puisque là, aujourd'hui, je n'ai couché avec aucun homme. Et donc, Marie comprend bien que la grâce, ce n'est même pas pour la semaine prochaine, ni pour le mois prochain, ni pour demain, c'est pour tout de suite, pour immédiatement. La grâce, ce n'est pas une promesse, mais c'est un cadeau qui est là tout de suite à prendre ou à laisser. Et Marie le prendra par le célèbre fiat, quand elle dira à l'ange qu'il soit fait selon la volonté du Seigneur. Alors peut-être que la grâce qui est faite à Marie, c'est d'avoir été acceptée pour jouer ce rôle important dans le plan de Dieu. Parce qu'en effet, peut-être est-ce cela la grâce. C'est que l'ange ne dit pas à Marie, « J'ai vu tes mérites, j'ai vu que tu étais une jeune fille pure, j'ai vu combien tu avais la foi. Eh bien, au nom de tout cela, tu vas mériter d'être digne d'être la mère du Sauveur. » L'ange ne dit pas ça. Il dit à Marie, « Une grâce t'a été faite, tu seras la mère du Seigneur. » Cela veut dire que peut-être la grâce, c'est justement que Dieu nous donne d'entrer dans son plan alors même que nous ne le méritons pas tout à fait. Et là, ça m'a fait réfléchir aussi parce que nous sommes tous empêtrés par des traditions et par 2000 ans de tradition chrétienne, où l'on nous dit que Marie était une jeune femme pure, qu'elle était même née immaculée, qu'elle était sans péché depuis même sa conception, qu'elle était parfaite, qu'elle était merveilleuse, etc. Et en fait, en bon protestant, je dirais moi, je veux m'en tenir à l'Écriture. Et donc je regarde ce que l'on nous dit de Marie dans l'Évangile de Luc. Et si vous regardez ce que l'on dit de Marie dans l'Évangile de Luc, vous verrez que Marie n'est pas présentée comme exemplaire. Elle n'est pas présentée comme pécheresse non plus. Elle est présentée comme normale, comme ordinaire. Il n'est rien dit sur lui. Au contraire d'Élisabeth, sa cousine. Alors elle est merveilleuse, Élisabeth. Elle est mariée à un homme plein de sainteté. Zacharie est prêtre. Il est d'une famille sacerdotale. Et Élisabeth, elle prie pour avoir un enfant parce qu'elle n'arrive pas à en avoir. Élisabeth est pleine de piété, pleine de prière, pleine d'espérance, pleine d'attente. Marie, dans Luc, n'est présentée sans rien de tout cela. Marie ne prie pas, elle n'est pas plus pieuse qu'une autre, elle n'attend rien, elle ne demande pas à avoir un enfant. C'est simplement une jeune femme heureuse qui est fiancée à un homme et qui vit son bonheur de jeune femme. Et c'est tout. Et donc Marie ne réclame rien et ne prie pas. Marie est ordinaire. Et c'est peut-être ça la grâce. C'est que justement, avec une patte ordinaire, avec une humanité comme tout le monde, comme vous, comme moi, eh bien Dieu peut faire une très grande chose. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que bien sûr, nous pouvons tous se dire, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour nous donner le pardon, pour nous régénérer, pour nous sauver. Mais finalement, la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas des assassins, nous ne sommes pas des gibiers d'enfer, nous sommes des gens finalement ordinaires, nous vivons notre vie avec nos joies et nos peines. Eh bien, la grâce, c'est que dans ce terreau ordinaire de notre vie, Dieu peut mettre un extraordinaire. Et puis, la grâce de Dieu, c'est donc quelque chose qui est fait, vous disais-je, à l'initiative de Dieu. La grâce de Dieu, et la grâce, ça veut dire gratuit, donc c'est un cadeau. La grâce, c'est un vrai cadeau de Dieu, et c'est un cadeau de Dieu seul. Et là aussi, nous avons une autre leçon de théologie, c'est que la grâce, ce don essentiel de la part de Dieu, n'est pas une réponse à la demande. Ce n'est pas une réponse à la requête humaine. Je vous l'ai dit, Élisabeth réclame et elle réclame, elle réclame, et on ne lui dit jamais une grâce t'a été faite. Marie ne réclame rien, et c'est à elle qu'on dit qu'une grâce a été faite. Et donc la grâce, c'est l'initiative de Dieu qui donne quelque chose. Ça, c'est important parce que nous, peut-être, nous avons trop tendance à croire que nous devons toujours tout réclamer à Dieu. Or, la grâce, ce n'est pas à nous de la réclamer, c'est simplement Dieu qui nous l'offre, et c'est à nous de la recevoir, parce que c'est Dieu lui-même qui offre. Le tout, c'est de savoir la recevoir. Et autre leçon, c'est que je vous disais que Marie était finalement assez ordinaire, ou tout au moins, elle n'avait pas de gros manques. Bon, j'ai insisté pour dire qu'elle n'était pas plus pieuse ou parfaite qu'une autre, mais en même temps, elle n'était pas non plus pécheresse, certainement pas. Elle n'avait pas de grands désirs spirituels particuliers. Et ça, c'est important aussi de montrer que la grâce n'est pas là pour boucher un trou. La grâce n'est pas là pour corriger une erreur. La grâce n'est pas là pour remédier au péché qui se trouve en nous. Là encore, nous sommes certainement un peu faussés dans notre approche. Et nous croyons que la grâce, c'est ce qui nous est donné parce que nous sommes pécheurs. D'ailleurs, dans notre liturgie, c'est ce que nous mettons. Confession du péché, annonce de la grâce. Bon, je ne veux pas contester cela, certainement la grâce est elle aussi le pardon. Mais là, dans ce texte, en tout cas, ça n'est pas ça. Et donc, ça serait une erreur de limiter la grâce à l'idée que la grâce serait une forme de réparation de notre imperfection, de notre péché et de notre égarement. La grâce n'est pas là pour boucher un trou, je dirais même plutôt que la grâce, elle est là pour bouleverser une existence bien rangée, une existence bien réglée, une existence trop facile. La grâce n'est peut-être pas pour boucher un manque, mais la grâce, c'est un plus. Et c'est assez remarquable de voir que Élisabeth, je vous l'ai dit, elle attendait, elle espérait, elle était dans l'angoisse. Marie n'était pas dans l'angoisse. Pour Marie, tout va bien, elle était dans le bonheur de ses fiançailles, bonheur ordinaire et simple d'une vie normale. Et voilà que le Christ n'apparaît pas dans le tragique d'une existence. Le Christ et la grâce n'est pas donné dans une attente éperdue, mais dans une vie ordinaire et heureuse. Et ça, c'est très bien de le dire, parce que trop souvent, on valorise les existences dramatiques. Et il est souvent d'usage, par exemple dans les milieux évangéliques, de faire des chrétiens qui font leur témoignage. Alors les témoignages chrétiens, c'est les témoignages de ceux qui se sont convertis. Et en général, c'est quelqu'un qui vient et qui dit « Voilà, moi j'étais drogué, je battais ma femme, j'étais alcoolique, j'étais violent, j'étais un assassin, j'ai fait de la prison, Christ m'est apparu et ma vie a changé. Et maintenant, je ne me drogue plus, ou je ne bats plus ma femme, ou je suis devenu honnête, ou je ne bois plus. » C'est évidemment des témoignages touchants et émouvants, mais en même temps, ça m'a toujours gêné. Parce que si c'est ça la grâce, qu'est-ce que je peux en dire moi? Quel témoignage puis-je mener? Moi je n'ai jamais assassiné personne, je ne me suis jamais drogué, je n'ai jamais battu ma femme et je n'ai jamais été alcoolique. Alors la grâce, quelle est-elle pour moi? Et est-ce que mon témoignage peut avoir le moindre sens? Eh bien je crois que oui justement. Parce que certes la grâce peut transformer une vie mauvaise en une vie bonne, mais la grâce... C'est aussi ce qui peut transformer une vie terrestre, une vie banale, une vie ordinaire, une vie quotidienne, dans une vie extraordinaire. Et finalement, je crois que c'est ça la grâce. C'est ce qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. C'est quelque chose de plus qui fait sortir du quotidien, qui fait sortir du banal, qui fait sortir du trivial. La grâce, c'est ce qui nous fait entrer dans l'extraordinaire, dans l'unique, dans l'éternel. La grâce, c'est l'irruption de l'extraordinaire dans notre mode de vie normal. C'est l'intervention du surhumain. Et c'est là que j'aime cette notion de miracle qui se trouve dans le texte. Bon, vous le savez, je ne suis pas très très client pour les miracles gynécologiques d'un enfant qui naît sans l'intervention d'un père humain, mais je lis ce texte d'une façon théologique. Et justement, aujourd'hui, jour de Noël, eh bien, je veux croire au miracle. Parce que justement, je crois que le miracle, c'est que Dieu peut faire dans notre vie quelque chose d'inimaginable, d'incroyable, d'imprévisible. Le miracle, c'est ça, c'est pas forcément... ce qui est contraire aux lois de la nature. Mais c'est quelque chose que personne n'aurait pu supposer, imaginer, prévoir, et voilà qu'il se passe dans notre vie quelque chose d'incroyable. Et là, il y en a des miracles. Et moi, je crois aux miracles. Je crois que Dieu peut faire sans arrêt des miracles dans notre vie. Dieu peut ajouter dans notre vie, mettre dans notre vie, ce que personne n'aurait pu imaginer ou prévoir. Contre tous les pronostics, positifs ou négatifs, Dieu peut bouleverser notre vie. Et il peut arriver du jour au lendemain quelque chose qui fait que notre vie change et s'ouvre à une lumière positive, à quelque chose de merveilleux. Le cours des choses ne fait pas forcément que se répéter. On n'est pas prisonnier du métro, boulot, dodo, du quotidien, de la grisaille de tous les jours. Mais il peut y avoir dans notre vie de l'imprévisible, de l'extraordinaire, du merveilleux. Et donc cette grâce, c'est quelque chose qui vient de Dieu seul et qui crée du neuf et de l'inattendu. J'aime pour cela l'expression qu'utilisent certains mystiques et qui parle de l'irruption de la grâce. L'irruption de la grâce, c'est la grâce qui tout à coup vous tombe dessus et qui change votre vie. Et nous, en effet, nous avons des projets, nous avons des plans de carrière, nous croyons que notre vie, elle devrait se passer comme ci, elle devrait se passer comme cela. Nous prévoyons tout, nous programmons, et je crois que ça, c'est dangereux, parce que cela ne nous rend pas disponibles à la grâce. Et donc, méfions-nous de ceux qui prévoient trop. Méfions-nous de ceux qui ont trop de projets. Évitons de tout planifier et évitons d'avoir une idée trop précise de ce que devrait être notre vie. Finalement, nous pensons que tout devrait se passer comme nous le voudrions. Donc nous avons des projets et dès quelque chose change par rapport à ce que nous avions envisagé, c'est la panique. Et oui, c'est peu même pire que ça parfois. Parce que certains chrétiens vont même utiliser la prière comme si Dieu devait intervenir pour faire en sorte que ce soit nos projets qui s'accomplissent. Quelle absurdité ! La grâce de Dieu, c'est la liberté de Dieu de faire de nous ce qu'il veut. Et la prière, ce n'est pas de dire à Dieu, « Dis donc, là j'ai des projets, ce serait pas mal que tu fasses en sorte que ce soit mes projets qui s'établissent. » Mais la prière, c'est de dire, comme le dit Marie, « Qu'il soit fait selon ta parole. » La grâce faite à Marie, c'est quelque chose qui va bouleverser l'ordre établi. Une nouveauté extraordinaire qui n'est pas du tout dans ses projets. Elle allait se marier, elle voulait devenir enceinte de son fiancé, et voilà qu'il va se passer quelque chose qui va être complètement autre que ce qu'elle avait prévu. Et en même temps, cela n'est pas forcément que dans les grandes choses. Ce n'est pas que dans le fait de changer de vie. Oui, c'est vrai, certains, tout à coup, reçoivent la grâce et plaquent tout, leur métier, leur salaire, et partent évangéliser les tribus indigènes dans des pays lointains. Certainement, cela peut être un effet de la grâce. Mais la grâce peut aussi agir dans des petites choses de notre vie. La grâce, ça peut être, pour nous, la possibilité d'être disponible pour des petits moments inattendus, imprévus, qui peuvent permettre une rencontre, un contact, un grain d'amour, une petite chose qui peut permettre de grandir. Et la grâce, ça peut être ça, quelque chose, une petite chose qui nous invite à être disponible et que nous devons cueillir au moment où elle passe. Parce qu'en effet, pour recevoir cette grâce qui transforme la vie, je vous l'ai dit, ce n'est pas en fonction de nos mérites. Il n'y a pas de conditions préalables. La seule chose qui compte, c'est la disponibilité. D'être capable d'entrer dans le projet de Dieu, d'accepter une nouveauté, un imprévisible de Dieu dans sa vie, d'accepter d'aller sur un autre chemin. Et Marie, elle va le faire. Et ça, c'est sa grande qualité. Contrairement à Élisabeth et Zacharie, qui eux n'arrêtent pas de discutailler. Dieu leur dit, vous allez avoir un enfant. Alors Zacharie dit, mais attends, est-ce que c'est vrai cette histoire? Sûrement pas, donne-moi une preuve, prouve-moi quelque chose, donne-moi un signe. Pouh! Finalement, Zacharie sera puni, dit, puisque c'est comme ça, tu vas perdre la parole, et c'est terminé. Pas bon pour le service. Peut-être que Dieu avait prévu au début que ce serait elle, et lui, les parents du Messie, allaient savoir. Mais pas bon pour le service. Marie, elle demande pas de signe. Bon, je reconnais qu'elle discute un peu quand même. Elle dit, mais attends, comment ça va être possible, ça? Elle discute un peu, et puis elle dit, allez, ok, on y va, banco. Ça, c'est en français courant, ce que Marie a dit à l'ange, fiat, qu'il soit fait selon ta volonté. Accepter de se laisser bouleverser, accepter de changer ses projets, et ça, c'est toujours essentiel. Tant pour accepter les projets de Dieu dans notre vie, que pour être capable de servir son prochain. Parce que l'on dit qu'il faut aimer Dieu, qu'il faut servir Dieu. Mais en fait, servir Dieu, c'est aussi servir son prochain. On dit parfois que le Christ se déguise en pauvre. Eh bien, c'est vrai. Jésus lui-même a dit que aimer Dieu, c'est pareil que d'aimer son prochain. Et donc, la disponibilité à l'égard de Dieu, c'est aussi la disponibilité à l'égard de l'autre. Et la grâce, elle nous vient de Dieu. Mais souvent, Dieu se déguise en prochain pour nous apporter la grâce. Et cet ange Gabriel, qui était-il ? J'en sais rien. C'était peut-être quelqu'un comme vous et moi, parce que sans arrêt, nous croisons des anges qui viennent nous dire quelque chose de la part de Dieu. Et nous, nous ne les reconnaissons pas parce que nous sommes obtus à la grâce. La grâce, elle doit être accueillie. Et il faut être disponible à l'égard de Dieu et aussi à l'égard des humains. Et servir Dieu, c'est aussi servir l'autre. Et pour servir l'autre, il faut une sacrée dose de disponibilité. Parce que d'expérience, je le sais, chaque fois qu'on vous demande un service, ça tombe en général toujours au mauvais moment. Et l'on dit « Ah oui, tu me demandes ça, mais écoute un autre moment, mais là j'ai autre chose à faire, très bien. » Comme ma grand-mère qui disait, quand un pauvre lui demandait quelque chose, « J'ai mes pauvres. » Ça veut dire « Vous ne rentrez pas dans mes projets. » La disponibilité, c'est justement d'être capable de changer ses projets, de recevoir l'autre. Et je le sais, puisque mes enfants commencent à rentrer dans l'adolescence, on dit que pour les adolescents, il faut beaucoup de disponibilité. Parce qu'ils ont besoin de vous, toujours au moment où vous n'êtes pas disposé à leur donner du temps. Mais si vous ne leur donnez pas au moment où ils en ont besoin, eh bien c'est passé et ça ne repassera pas. Et donc je crois qu'effectivement, cette grâce, c'est quelque chose qu'il faut prendre au moment où elle se présente. La grâce, c'est un ange qui passe et qu'il faut saisir par les cheveux au moment où il passe. Si vous ne l'avez pas saisi, il est passé. Il reste deux plumes par terre et c'est terminé. Si j'étais plus laïque, je dirais la grâce, c'est comme la chance. Certains disent « moi j'ai de la chance », d'autres disent « je n'ai pas de chance ». J'ai fait des mathématiques, je suis pour les statistiques. Je crois que statistiquement, tout le monde a autant de chance. Mais simplement, il y a des gens capables de saisir la chance par les cheveux et d'autres qui ne savent pas saisir la chance. Ça, c'est la disponibilité. La chance, elle passe, et la grâce, elle passe comme une chance à laquelle il faut s'accrocher, sinon on reste sur place. C'est un ange qui passe à la portée de notre main, de notre oreille, de notre esprit, sous une forme que nous n'attendons pas, à nous de l'entendre, de lui saisir la main, sinon, eh bien, on rate une bonne occasion. Et cette grâce vient toujours de manière imprévisible, et peut-être que cela m'explique aussi les paraboles que je n'ai jamais comprises dans l'Évangile, où l'on nous dit, vous savez, le royaume de Dieu viendra comme un voleur. Il viendra au moment, au milieu de la nuit, au moment où vous ne l'attendez pas. Et à ce moment-là, il viendra et les vierges comme les vierges folles qui sont incapables de l'accueillir. Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Peut-être que c'est la même chose. Effectivement, le royaume de Dieu vient comme un voleur. Les grâces que Dieu nous envoie viennent au moment où nous ne les attendons pas. Elles viennent en pleine nuit. Et donc le Christ nous dit bien, veillez et priez. C'est-à-dire soyez attentifs pour recevoir, comprendre, dénicher les grâces, les chances que Dieu vous envoie. Dieu n'arrête pas de vous envoyer des grâces sur votre chemin, sur votre route. Sachez les reconnaître. Et priez, non pas pour que Dieu vous envoie des grâces, parce qu'il n'arrête pas de vous en envoyer, mais priez pour être capable de reconnaître ces grâces. Veillez et priez, parce que effectivement, c'est comme cela que ça se passe, et Dieu vous est donné. Le tout, c'est d'être disponible. Et tout cela, eh bien, cela va changer la vie de Marie. Et Marie va comprendre que c'est pour elle le sens d'une grande joie. Réjouis-toi, Marie. Sois heureuse. C'est une grande joie pour elle et pour tout le peuple. La joie, c'est ça, c'est la disponibilité vis-à-vis de la grâce. Alors vous me direz que tout cela n'est pas très facile et que c'est bien beau de dire qu'il faut être disponible et que la joie est quelque chose qu'il faut savoir reconnaître et attraper par les cheveux. Mais en même temps, Marie aussi lui dit, elle lui dit, « Mais dis donc, ça ne va pas être commode ça, hein ? Ça ne va pas être facile. » Et l'ange lui dit une chose merveilleuse. L'ange lui dit, « Eh bien, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. » Alors longtemps, j'ai cru que c'était une métaphore pour désigner une sorte d'acte sexuel de la part du Saint-Esprit à l'égard de Marie. En effet, on dit bien, pour la reproduction des chiens, qu'un étalon couvre une lisse, c'est-à-dire la chienne. Mais je ne crois pas que ce soit ça. Et en tout cas, j'ai cherché dans la Bible, jamais l'expression « couvrir de son ombre » n'a la moindre connotation sexuelle. Et donc, quand l'ange dit « le Saint-Esprit te couvrira de son ombre », ça ne veut pas dire « il va te faire un enfant ». Ça veut dire autre chose. Couvrir de son ombre, c'est l'image permanente dans l'Ancien Testament pour dire « Dieu te protégera, Dieu te donnera son aide et son soutien ». Dans un pays où le soleil brûlait, où le soleil tuait, desséchait, l'ombre était infiniment bienfaisante. Et donc ce que dit l'ange à Marie, Marie qui a peur, parce qu'effectivement on lui annonce quelque chose d'improbable, d'extrêmement dangereux pour elle, tu vas être enceinte et même pas de ton fiancé, oula, ça va me mener où ça? Ça va me mener où? Peut-être à la mort? Parce qu'une fiancée qui tombe enceinte sans son fiancé, à cette époque juive, c'était condamnée à mort. Et voilà Marie qui dit, dis donc, comment ça va se passer cette histoire? Et l'ange lui dit, ne t'inquiète pas, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. C'est-à-dire sur cette route difficile de la grâce qui nous invite à nous départir de nos projets, à nous rendre disponibles pour l'imprévisible, pour l'incroyable, même pour l'absurde. Eh bien, ne crains pas, parce que tu n'es pas tout seul sur ce chemin et tu as l'aide de Dieu. Tu as l'aide de Dieu qui va t'accompagner sur ce chemin et qui te permettra d'arriver à faire ce que tu as à faire. Et donc la grâce, elle est à recevoir, c'est vrai, mais ce n'est pas juste une occasion à prendre ou à laisser d'être en relation avec Dieu. Certainement, il faut saisir la grâce pour pouvoir rentrer dans les projets de Dieu, mais la grâce, c'est aussi cette présence de Dieu qui nous est donnée pour nous permettre de cheminer dans notre vie avec une totale confiance, parce que nous savons qu'avec lui, tous les chemins peuvent mener au bonheur, à la joie et à l'accomplissement. Et c'est ça la promesse qui est donnée, une vraie joie, la vraie joie. La vraie joie, elle se trouve dans le fait d'accepter la grâce. La vraie joie, ce n'est pas dans le fait d'appliquer ce que nous avions prévu. La vraie joie, c'est la surprise. Les enfants le savent, la vraie joie, c'est le sapin de Noël. On ouvre, qu'est-ce qu'il y a? Oh, je n'y pensais pas. Ça, c'est la joie. Les projets, il n'y a aucune joie dans les projets. C'est ce que vous faites le samedi matin, vous faites vos courses. Il y a une liste de ce que vous devez acheter et vous l'achetez. C'est ça la joie? Appliquez vos règles et vos projets, aucune joie là-dedans. La vraie joie, c'est la disponibilité de la surprise. Et en Dieu, il y a plein de surprises. Le premier cadeau que nous fait le Seigneur, c'est le petit Jésus. Le petit Jésus, il vient avec son évangile. Dans cet évangile, c'est bourré de surprises, de choses qui peuvent changer votre vie, qui peuvent vous faire voir les choses complètement autrement, qui peuvent renouveler votre existence. Et ça, c'est la plus grande des joies qui vous est offerte, si vous savez la saisir, la reconnaître, et dire comme Marie, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il soit fait selon ta volonté. » Avec en plus le bon cadeau, autre, c'est que Dieu nous donne une sorte de service après-vente avec ces cadeaux-là. C'est l'accompagnement du Saint-Esprit. Et donc Dieu vous bouleverse, c'est vrai. Oui, oui, la foi n'est pas une chose simple. Dieu nous bouleverse un peu, mais il nous donne l'accompagnement et la force du Saint-Esprit pour que notre route imprévisible puisse être dans tous les cas un chemin de lumière, de confiance, de joie, de vie et de paix. Amen.